Jésus encourage ses disciples. Et c'est basé sur l'évangile de Jean, comme habituellement. On n'avait pas terminé le chapitre 13. Donc on commencera en Jean 13, à partir du verset 31. Nous avions vu au chapitre 12, verset 20 et suivant, du même évangile, que des prosélytes d'origine grecque avaient demandé aux disciples de Jésus s'ils pouvaient avoir une entrevue avec lui. Les paroles de Jésus, suite à cette demande, nous indiquent qu'il y a vu le signal du Père que son heure, c'est-à-dire celle de sa mort et de sa glorification, était désormais venue. Au chapitre 13, Jean est le seul des quatre évangélistes à nous rapporter le geste de Jésus envers ses disciples. Lui, le Maître et Seigneur, s'est abaissé jusqu'à leur laver les pieds pour leur enseigner le renversement de l'échelle sociale propre à son royaume. La réaction de stupéfaction quelque peu indignée de Pierre avait été l'occasion pour Jésus de redire à tous ses disciples que sa mort pour la purification de tous les croyants restait un passage incontournable. Judas a quitté la petite communauté des disciples au cours du même repas pour aller s'entendre avec les chefs des prêtres afin de leur livrer son maître. Et Jésus va donc maintenant passer du temps au cours de cette même soirée, avec les 11, pour les préparer à son départ imminent. Jean nous rapporte cet entretien avec ses disciples à partir du verset 31 du chapitre 13, et qui se termine par une longue prière de Jésus pour ses disciples et pour lui-même au chapitre 17. Alors on va lire, donc Jean 13, à partir du verset 31, quand il fut parti, c'est-à-dire Judas, Jésus dit « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme éclate, et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu, à son tour, va glorifier le Fils de l'homme en lui-même, et il le fera bientôt. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant, vous ne pouvez pas aller où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Simon Pierre lui demanda, « Mais Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Tu ne peux me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu me suivras. » Mais Pierre reprit, « Et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » « Tu es prêt à donner ta vie pour moi ?» répondit Jésus. « Oui, vraiment je te l'assure, avant que le coq ne se mette à chanter, tu m'auras renié trois fois. » Jésus dit, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Alors c'est Philippe qui intervient. « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. » « Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà, jusque-là. Donc on a lu au verset 31 du chapitre 13, quand Judas fut parti, Jésus dit « Maintenant la gloire du Fils de l'homme éclate et Dieu va être glorifié en lui ». On pourrait aussi traduire « glorifié par lui », ce qui nous parle peut-être un peu plus. Puisque Dieu va être glorifié par lui, Dieu à son tour va glorifier le Fils de l'homme en lui-même et il le fera bientôt. Dieu va être glorifié par Jésus. Un certain théologien qui s'appelle Caird a écrit « Cela indique que Dieu a fait un exposé complet de sa gloire dans la personne de Jésus. » Jésus se désignant lui-même dans ce passage comme le Fils de l'homme. Comme l'a écrit Jean dans le premier chapitre de son évangile, chapitre 1, verset 14, « Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Toute la vie de Jésus, y compris et même surtout sa mort, a fait éclater devant l'univers entier la gloire de Dieu. Et en retour, Dieu va glorifier son Fils par son élévation sur la croix et son ascension au ciel dans la gloire. Gloire qui était la sienne avant son incarnation. Paradoxe total. La croix de Jésus, ignoble exécution capitale de l'époque, a été le moyen de sa suprême glorification. Cette vérité était le centre de la prédication de l'apôtre Paul. Par exemple, il dit aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 2, verset 2, « Je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Verset 33 de notre chapitre 13, Jésus commence en disant « Mes chers enfants ». Le mot se trouve très peu dans les évangiles, nulle part ailleurs, je crois même. C'est « technia » en grec, hein, qui veut dire « mes chers petits-enfants ». C'est un terme de tendresse qui ne se trouve nulle part ailleurs. Et en parlant ainsi, il prend la place traditionnelle du chef de famille lors du repas pascal. Vous savez que le chef de famille dirigeait en quelque sorte le côté spirituel du repas pascal à l'époque chez les Juifs. Je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. En effet, il va être arrêté cette même nuit quelques heures plus tard. Vous me chercherez. Et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant, vous ne pouvez aller là où je vais. En effet, le même évangile nous rapporte que Jésus avait dit à peu près la même chose à la foule de ses auditeurs. Par exemple, au chapitre 7, verset 33, je suis encore un peu de temps parmi vous, ensuite, je retournerai auprès de celui qui m'a envoyé. Il avait dit ça à la foule. Verset 34, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez aller là où je serai. Ces paroles avaient paru bien mystérieuses à ses auditeurs, qui s'étaient même demandé s'il parlait d'aller porter son message aux Juifs de la dispersion. Une deuxième fois, au chapitre 8, verset 21, répondant aux critiques des pharisiens, il leur dit « Je vais m'en aller et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez aller où je vais. » Ces derniers se sont demandé s'il avait l'intention de se suicider. Et tout de suite, après cette parole, Jésus donne à ses disciples un commandement fondamental qu'il qualifie de nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et il ajoute, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est un passage célèbre. Hein ? Juste avant, il avait illustré ce commandement en leur lavant les pieds. L'Ancien Testament ordonnait déjà d'aimer son prochain comme soi-même. Par exemple, en Lévitique 19, verset 18, Moïse transmet au peuple l'ordre de son Dieu de ne pas se venger soi-même et il ajoute « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Alors pourquoi Jésus qualifie-t-il ce commandement de nouveau ? Au moins pour deux raisons. La première, à cause de la norme de cet amour. Rien moins que l'amour de Jésus pour les siens. Et la deuxième raison, parce que c'est en quelque sorte la feuille de route, l'ordre de marche de la nouvelle communauté qui est en train de naître, la communauté de Jésus-Christ. Dans cette communauté nouvelle, ce commandement devra désormais refléter la relation d'amour qui existe entre le Père et le Fils. Cet amour mutuel sera le plus puissant signe de la présence de Dieu parmi ces hommes et ces femmes aux yeux du monde qui les entoure. Un autre théologien, Donald Carson, a écrit « L'orthodoxie, c'est-à-dire un message bibliquement impeccable, sans obéissance à ce commandement caractéristique de la Nouvelle Alliance, ne serait que baliverne. » On arrive au verset 36, Pierre intervient. S'aimer les uns les autres, bon, ok, on verra. Mais ce qui l'intéresse, c'est de savoir où va Jésus. Jésus lui répond un peu comme lors de sa réaction quand il lui a lavé les pieds. Il lui avait dit, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. Là, il lui dit, tu ne peux me suivre maintenant, là où je vais, mais plus tard, tu me suivras. Et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Pierre était certainement tout à fait sincère en disant cela. Mais il n'avait pas réalisé, pas plus que les autres disciples d'ailleurs, qu'il fallait que Jésus passe par la croix. Des témoignages des pères de l'Église rapportent qu'environ 30 ans plus tard, Pierre subira à son tour le martyre, et très certainement par la crucifixion. Mais là, il veut suivre son Seigneur tout de suite. Alors Jésus va devoir lui dire cette terrible parole prophétique. C'est le verset 38. Tu es prêt à donner ta vie pour moi ? Oui, vraiment, je te l'assure. Avant que le coq se mette à chanter, c'est-à-dire avant même la fin de la nuit, tu m'auras renié trois fois. Les autres évangiles nous rapportent le détail du reniement de Pierre, et combien cette chute a été humiliante et douloureuse pour lui. Lui qui se croyait fort a dû faire l'expérience de sa faiblesse naturelle, et le Seigneur devra s'occuper de le restaurer personnellement et pleinement après sa résurrection. Cela illustre une vérité totalement juste et bienfaisante. Jésus nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il connaît notre faiblesse naturelle. Et sa grâce sera toujours disponible pour nous remettre debout si nous chutons. Jésus est bien conscient que cette parole a dû troubler beaucoup, non seulement Pierre, mais aussi tous ses disciples. Alors il leur dit, verset 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Ayez aussi foi en moi. » Et il y ajoute une magnifique promesse, bien propre à calmer leurs troubles. Ce sont les versets 2 et 3 du chapitre 14. « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » cette déclaration de Jésus répond en partie à leur question « Où vas-tu ?» Eh bien, je vais justement m'occuper de vous et de votre avenir. Votre désir est de rester avec moi ? Eh bien, ce sera fait. Et en plus, il y a un souci. Ah, je parle trop près. Votre désir, vous m'entendez bien ? Oui ? Votre désir est de rester avec moi, eh bien ce sera fait, et en plus, dans la maison du Père. Et il y aura de la place pour tous. Ces demeures nombreuses dont parle Jésus, il y en aura autant que de croyants. Cette maison du Père, c'est le ciel, l'espérance de tous les croyants, même si ce terme recouvre aussi la Nouvelle Jérusalem, par exemple, la Sainte Cité, décrite symboliquement par le même Jean dans son Apocalypse, capitale d'une terre renouvelée où la justice habitera pour l'éternité. Au verset 4, alors après avoir énoncé à ses disciples cette magnifique promesse, Jésus ajoute « Mais vous en connaissez le chemin ?» Alors cette fois-ci, c'est Thomas qui réagit. Verset 5, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» Pour cette fois, Pierre n'ose plus rien dire. C'est Thomas qui se fait un peu le porte-parole des disciples, car tous sont de plus en plus perplexes devant les paroles de Jésus, et particulièrement la question du chemin pour parvenir dans ces demeures célestes. La réponse de Jésus est restée célèbre parmi les chrétiens. C'est le verset 6, « Je suis moi le chemin », répondit Jésus. « La vérité et la vie ». Personne ne va au Père sans passer par moi. On ne sait pas bien quelle image les disciples se faisaient de ce chemin vers les demeures célestes. Mais là, ils apprennent que c'est Jésus lui-même. Et de plus que ce chemin est exclusif. Personne ne va au Père sans passer par moi. Jésus affirme qu'il est non seulement le seul et unique chemin vers le Père, mais aussi qu'il est, dans sa personne, la vérité, toute la vérité de Dieu, et qu'en dehors de cette vérité, tout est, dans le domaine spirituel, mensonge, suggéré par le Père du mensonge. Cette vérité, c'est que, hors de son sacrifice à la croix, il n'y a aucun autre chemin de salut. Toute prétendue relation avec Dieu, en dehors de la base du sacrifice du Fils, n'est qu'illusion. Mais aussi qu'il est la vie, c'est-à-dire qu'il possède la vie en sa personne et qu'il vivifie celui qui croit en lui. Il le sauve de la mort éternelle. C'est ce qu'il avait dit à Marthe, vous vous souvenez, alors qu'elle venait de perdre son frère, en Jean 11, verset 25, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. » Et quiconque croit en moi ne mourra jamais. Cette exclusivité du message de l'Évangile choque beaucoup de nos contemporains, qui estiment qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent mener vers la présence de Dieu, pourvu que l'on soit sincère. Et beaucoup pensent que lorsque Jésus et ses disciples après lui prétendent à cette exclusivité, c'est de l'arrogance. C'est cependant bien ce que Jésus dit. Et ce verset ne peut pas être retiré de l'Écriture. L'Évangile est une bonne nouvelle pour ceux qui reconnaissent humblement que l'Écriture dit vrai, nouvelle qui les sauve, qui leur donne la vie. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour ceux qui rejettent l'exclusivité de son message. L'apôtre Paul redira cette vérité aussi en 2 Corinthiens 2, versets 14 et suivants, il dit « Dieu se sert de nous, les apôtres, pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. » On retrouve donc dans ces paroles de l'apôtre Paul la même exclusivité de l'Évangile. Au verset 7, « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Alors là, c'est Philippe qui réagit, le disciple auquel les prosélytes grecs s'étaient adressés pour avoir une entrevue avec Jésus. « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Le grand philosophe et mathématicien Blaise Pascal a écrit, cette parole bien connue, hein, « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. » Donc ce n'était pas seulement un grand philosophe, un grand mathématicien, mais un grand chrétien. Cette demande de Philippe correspond tout à fait à ce constat de Pascal. Mais Philippe et sans doute aussi ses collègues n'ont pas réalisé qu'en vivant avec Jésus, ils avaient la révélation tangible du Père sous leurs yeux. C'est ce que Jean a réalisé quelques décennies plus tard quand il a écrit son évangile. Il a écrit dans son prologue, chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » Verset 9, « Et quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne vous le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. » Dans les chapitres précédents, Jésus n'a cessé de dire aux foules comme à ses disciples que tout ce qu'il disait et faisait, c'était le Père qui le lui disait et le lui montrait. Ainsi, ses paroles étaient celles du Père et ses actes étaient ceux du Père. Verset 11. Jésus insiste sur cette vérité que ses disciples ont manifestement du mal à intégrer. « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. » Jésus parle là des actes de puissance, des miracles qu'il a accomplis et qui sont autant de signes de son union avec son Père. Verset 12. « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. » Faire des œuvres plus grandes que Jésus lui-même. Ça paraît impensable. Mais Jésus ne parle pas de la nature des œuvres, mais de leur étendue. En effet, après son retour auprès du Père, la proclamation de l'Évangile ne sera plus limitée au petit peuple d'Israël, mais s'étendra au monde entier, et comme une traînée de poudre, comme on le voit dans le livre des Actes. Au verset 13, « Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, « je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jésus vient de dire à ses disciples qu'ils accompliront des œuvres plus grandes encore que les siennes. Nous avons vu dans quel sens ces œuvres sont plus grandes. Mais Jésus explique maintenant pourquoi elles seront accomplies après son retour auprès du Père. Là encore, c'est Donald Carson qui l'explique comme ça. « La fécondité de la vie des disciples sera le fruit de leurs prières, qui seront présentées au Père au nom de Jésus. Que la prière soit adressée directement au Père ou à Jésus, si vous me demandez, elle est faite au nom de Jésus, et c'est lui qui honore la requête. Je le ferai. » Ayant retrouvé la gloire qu'il avait auprès du Père avant la création du monde, le Fils n'est plus astreint aux limitations antérieures à sa mort qui caractérisaient son ministère. Vous vous rappelez, il avait dit à ses disciples, « Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël » lorsqu'il les avait envoyés en mission. La rédemption est désormais acquise, c'est-à-dire le pardon des péchés dont peut bénéficier chaque homme ou femme qui croit en lui. Le royaume du Fils envahit triomphalement les nations par son pouvoir de salut et de transformation. Dieu avait promis à Abraham qu'il serait le père de tous les croyants. Cela allait maintenant se réaliser par la prédication des disciples au monde entier et pas seulement au peuple juif. Ils allaient être spécialement équipés pour cela et revêtus de la puissance du Saint-Esprit après la Pentecôte. Et c'est précisément de ce ministère de la troisième personne de la Trinité que Jésus va, dans la suite de ces chapitres, entretenir ses disciples. Est-ce qu'on verra une prochaine fois? Est-ce qu'on pourrait mettre la première diapo pour essayer de résumer un petit peu tout ça et de voir ce que ça nous enseigne? Donc au début, au verset 31, il a été question de la gloire de Dieu et de la gloire de Jésus. Et on a vu que Dieu est glorifié en Jésus. Je pense que on peut l'expliquer en parce qu'il a été glorifié par la perfection de sa vie, le seul homme sans péché, glorifié par son obéissance jusqu'à la mort, et aussi la gloire de son amour pour ses frères en humanité, ça c'est inégalé. Il a donné sa vie pour nous sauver. La suivante. Jésus peut dire qu'en retour, Dieu va bientôt le glorifier. Il va le glorifier en le ressuscitant des morts et en l'élevant à la gloire qu'il avait de toute éternité avant son incarnation. Et cette gloire est encore rehaussée par la parfaite démonstration de sa totale obéissance devant les puissances angéliques, bonnes et mauvaises. Alors, ce fameux verset, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Nous sommes certainement incapables d'aimer comme Jésus. Mais il le sait et nous demande malgré tout de l'imiter. Car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné, a écrit l'apôtre Paul en Romains 5, verset 5. La suivante. Et ce fameux verset aussi. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Cet amour mutuel est le plus puissant signe qu'il soit donné au monde de voir de notre appartenance au Seigneur. Alors la parole à Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Méfions-nous de nos vantardises, même sincères, sont les vantardises de la chair. Notre faiblesse, comme pour Pierre, nous aura bien vite rattrapés. Cette merveilleuse promesse, il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père. Notre place nous y est assurée, préparée par Jésus lui-même. Alors, fournissons la course avec persévérance avant d'y être accueillis. Je suis, moi, le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jésus étant lui-même le chemin vers la maison du Père, y a-t-il un risque de faire fausse route si on prend ce chemin-là? Bien des chemins, philosophiques ou religieux, sont proposés dans ce monde, mais aucun n'est vrai, ni ne peut a fortiori nous donner la vie éternelle. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais et en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. On a vu que, dans cette parole, Jésus nous associe à son œuvre de salut et il en décuple les résultats par son intercession auprès du Père en notre faveur. C'est la dernière? Je ne sais plus. Pardon. Quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors nous avons une réunion de prière ce mardi 18 décembre à 19h ici au local, et chez moi à Châne, en liaison par Skype, alors